France Culture.
DJ, pump the beat. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre en immersion ce soir dans la culture ballroom, ses maisons, ses pères et mères, ses kids et ses battles de danse, ses dragues et ses démonstrations de voguing. Une émission que nous mènerons grâce à Céline Duchesnay en compagnie d'Amandine Gay, co-réalisatrice pour France Télévisions de la série Danser pour exister et de Vinnie Revlon, danseur et performeur. Chronique en second temps d'émission signée Céline Duchesnay, Esther Teillard et Fleur Hopkins l'offriront. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre ce soir, Céline Duchesnay, vouée à la culture ballroom.
Oui, alors moi j'ai plutôt ballroom.
On dit ballroom. Je vais multiplier ce soir les fautes de prononciation, les fautes d'accentuation et les incorrections, je vous prie d'avance de m'en excuser. Alors ballroom.
Ballroom, en fait ce soir on vous propose une émission où en effet, quelque part on pourrait dire qu'on va vous emmener au bal. Alors on dit ballroom parce que c'est un terme qui est utilisé, qui vient des États-Unis, une culture qui vient des États-Unis. Des années 60, mais on va vous amener sur une piste de danse où on va croiser des stars, on va croiser des légendes, on va croiser des pères, des mères, des kids, des icônes. Voilà un petit peu le programme de ce soir, avec, je dirais, beaucoup de flamboyance et beaucoup aussi d'élégance et de fierté. Je crois que ce seraient les trois termes qu'on pourrait commencer à utiliser pour définir la culture ballroom.
Magic words for tonight, donc élégance, fierté et...
Et puis flamboyance, bien sûr.
Ah, Amandine Gay, vous êtes d'accord?
Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Hein. Je pense que s'il y a un endroit où ça brille très très fort, c'est dans la scène ballroom.
Bien, ben on va apprécier cette brillance. Donc vous êtes réalisatrice, co-créatrice de la série Danser pour exister sur France Télévisions.
Tout à fait, c'est une série qui a été co-créée par Nasser Sari, Elina Gakougomba et moi. On l'a co-écrite avec Elina et puis c'est moi qui l'ai réalisée.
Très bien, et on peut la voir sur le site France Télévisions.
Tout à fait, c'est gratuit sur la plateforme de France Télévisions. Il suffit de vous faire un petit profil et vous pouvez regarder les 5 épisodes de 30 minutes. C'est frais, c'est joyeux, c'est intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas et c'est gratuit, j'insiste, c'est le service public.
Ah, très bien, on ne saurait mieux
jusqu'en
dire.
Jusqu'en 2028.
Jusqu'en 2028.
Aux dernières nouvelles, oui.
Sensationnel. Bonsoir Vinnie Revlon.
Bonsoir.
Alors vous-même, vous avez participé à la série de Amandine Gay?
Oui, participé. Je suis aussi une star dans la série, voilà.
Alors on peut vous définir comme danseur et performeur, c'est un peu limité, c'est beaucoup plus que ça en définitive.
Exactement, j'aime beaucoup me définir en tant qu'artiste 360.
C'est-à-dire voilà. 360 degrés.
J'ai fait plein de choses, je host, je chorégraphie, je produis, je coproduis, je suis le père de la maison aussi.
Vous êtes père de maison. Bon, on va voir ce que c'est qu'être le père.
Et vous oubliez l'essentiel. Vous avez aussi un titre qui est quand même pas des moindres, The Legend. Donc vous êtes une légende.
La première légende du voguing en Europe, en effet.
Donc une légende, c'est dignité presque. C'est pas un grade, c'est pas un rang, c'est une dignité. C'est quelque chose qu'on vous remet spontanément à partir d'un certain moment.
Exactement. C'est les créateurs de cette culture, les créateurs des maisons élisent un conseil et ensuite ils choisissent les nouvelles légendes et voilà, ils ont voté pour que je sois la première légende en Europe.
Très bien, bah, tous les deux, bienvenue dans la house mauvais genre, parce que mauvais genre est un peu aussi à sa manière une house, ça fait 30 ans ou presque qu'on accueille, qu'on héberge et qu'on fait danser des personnages qui d'habitude ne sont jamais évoqués, ne sont jamais honorés. Donc on est là pour ça. On a un peu la même fonction et la même vocation. Bonsoir Esther Teillard.
Bonsoir François.
Avec vous, on parlera de...
Du premier roman de Carole Boinet qui s'appelle L'Enthousiasme, tout juste paru chez Stock, qui est un roman très déroutant, très bizarre, très étrange, très mauvais genre.
Très mauvais genre. Fleur Hopkins, le Perron.
Bonsoir François.
Et vous, ce sera très étrange, bizarre et
singulier. Comme d'habitude, on parlera de deux pépites horrifiques, Strandling de James Brodgen, publié chez Maison Pop, et Ici tombent les filles de Stéphane Gillieu chez Phébus.
Merci. Et quant à l'almanach de l'étrange, ma chère Céline?
Eh bien, il sera consacré à Jean-Marie Massou. Mais je ne veux pas en dire plus pour le moment.
Très bien, ben, on n'en saura pas plus pour le moment. Je rappelle les réseaux sociaux pour retrouver Mauvais Genre. Facebook et puis sur Instagram, Mauvais Genre FC.
C'est un grand spectacle, genre. Un monde où tout est beau, que tu sois gros, maigre, poilu, pas poilu, noir, blanc, gris, marron, jaune. Tout, c'est une safe place, genre.
La ballroom, ça te permet vraiment de comprendre que c'est OK d'être soi-même. En fait, peu importe ce que t'es, c'est OK.
Ravelon, c'est une house vraiment de feu, où les gens ont envie de se surpasser.
On est dans une compétition. On va dans des balls, c'est pour s'affronter. Let's not play.
Il faut se construire ce personnage complètement mégalomaniaque, complètement égocentrique, pour se dire « I am the best ». Et là, on peut affronter le floor et les juges et les participants.
On est racisés, on est queer, c'est pas facile tous les jours.
Si j'avais pas eu la House of Revlon dans ma vie, je pense que déjà, je serais pas là. Je serais pas là.
Tu vois le petit R là au-dessus de ma couronne, là? Le petit R là, rouge, là? It's a Revlon for life.
DJ, pump the beat.
DJ Laurent, pomme de bite ce soir, comme tous les soirs, sur Mauvais Genre. Peu importe ce que tu es, c'est bien. J'ai noté cette phrase dans toutes celles qui ont défilé. Vinnie Revlon, c'est un peu la devise de la maison.
C'est ça, c'est sois fier de qui tu es. Et peu importe, fille, garçon, trans, non-binary, embrasse ta personne, célèbre ta personne et sois fier de qui tu es.
Céline Dugenet.
Alors, peut-être qu'on pourrait un petit peu présenter cette série Amandine Gay, où, en effet, Vinnie Revlon a une grande importance, puisque la série est consacrée à une maison qui s'appelle A House, en anglais, A House of Revlon. Donc, on va suivre, l'idée, c'est de suivre cette communauté de personnes, cette maison, cette famille, peut-être qu'on pourrait dire même, qui sont à la base des danseurs et qui pratiquent une danse qu'on va définir parce qu'elle est multiple sur un dance floor particulier qui est celui du ballroom. Donc l'idée, c'était vraiment de rentrer en immersion dans cette communauté d'êtres humains, dans cette famille de cœur, pour voir un peu comment fonctionne cette culture, Amandine Gay.
Oui, bah c'est sûr que moi, dans les thématiques qui reviennent beaucoup dans mon travail, il y a la question du faire famille. Et c'est vrai que ce que j'aime beaucoup dans la scène ballroom, c'est que ce sont à la fois des familles et à la fois des équipes. Hein, puisqu'il s'agit de s'affronter, on l'a entendu au tout début, quand il y a un ball, donc un bal, il y a effectivement des catégories de danse, mais il y a aussi des catégories de mode, il y a des catégories, il y a des gens qui font du lip-sync, il y a des catégories de corps, les personnes qui viennent avec leur corps musclé ou au contraire avec un corps voluptueux, etc. et qui défilent. Et donc je trouve ça assez fascinant de voir comment on va se retrouver autour d'une communauté qui sont donc des personnes queer racisées, souvent jeunes quand même, et qui donc trouvent aussi une structure dans cet endroit-là, et qu'on n'imagine pas forcément. C'est vrai que quand même encore aujourd'hui, dans la représentation des personnes LGBTQIA+, c'est assez rare qu'on voit des personnes noires, maghrébines, asiatiques, et qu'on les voit vivre, tout simplement, qu'on puisse aussi les voir avec leur famille, on va dire biologique. Et donc moi, c'est cet aller-retour-là entre comment faire communauté et comment se recréer des familles pour les personnes qui ont été éventuellement rejetées du fait de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, et en même temps, comment transcender ça au travers de la performance artistique, au travers aussi du côté aspirationnel. Ces maisons, ces houses, ça vient de l'idée de la maison de couture, ça vient de la maison de cosmétique. C'est pour ça que c'est House of Revlon, House of Gorgeous Gucci, House of Comme des Garçons. Donc l'idée, c'est vraiment aussi tout cet univers. Moi, j'avais mis dans la note d'intention, et je le reprends à chaque fois, dans un morceau de hip-hop, Medine dit « La banlieue influence Paname, Paname influence le monde », mais on oublie souvent que dans la banlieue, il y a plein de jeunes queer racisés. Donc, c'est pas n'importe quelle banlieue qui influence aussi le monde de la mode, par exemple, en France. C'est les personnes qui sont dans la scène ballroom. Et donc, ça aussi, pour moi, c'était important de le représenter.
Alors, Vinnie Revlon, comment est-ce que, avant même d'être arrivée, de découvrir, je dirais, la culture ballroom, est-ce que vous dansez, est-ce que vous êtes née en dansant? Est-ce que la danse a toujours fait partie, je dirais, de votre ADN?
Alors, je suis d'origine congolaise, donc oui, la danse, la musique, ça fait partie de mon ADN. Et voilà, je dansais les danses dites afro, mais je faisais du hip-hop aussi très jeune. J'ai commencé par ça. Puis j'ai découvert le voguing.
Comment est-ce que vous l'avez découvert, le voguing ?
À la télé en 2010, il y avait une émission de danse où il y avait plein de groupes de danse. Et dans ces groupes de danse-là, il y avait un groupe qui s'appelait Vogue Evolution. Et c'était la première fois que j'ai vu et j'avais détesté. Détesté. Je l'ai trouvé too much, un peu trop. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas eux qui étaient trop, c'était les autres qui n'étaient pas assez.
Amandine Gay, on pourrait peut-être présenter un petit peu le, je dirais, ce qui est la matrice de tout cela, c'est-à-dire cette culture américaine des maisons qui sont à la fois, vous le disiez, inspirées par les maisons de couture, donc il y a toute une inspiration artistique, formelle, à tout point de vue, et en même temps des maisons d'hébergement, puisque c'était là pour héberger avec une mère qui reconstitue une famille des individus qui ont été chassés, marginalisés et qui n'avaient plus droit, même droit à la vie. Donc on pourrait déjà peut-être présenter un peu ce contexte premier qui fait qu'aujourd'hui, bah, vous êtes là ce soir.
Oui, bien sûr. Bah, l'origine de la scène ballroom, elle se situe à New York dans les années 60-70. Et en fait, ça part des concours de drag queen. Donc des concours de beauté, encore une fois, dans la communauté LGBT. Et il se trouve que dans ces concours, les drag queens latinas et noires, puisqu'on est aux États-Unis, ne gagnent jamais. Et donc, parmi ces drag queens, il y a des drag queens, il y a des femmes trans, etc. Et comme elles en ont assez d'être marginalisées, y compris au sein de la communauté LGBT, elles décident de monter leurs propres événements. Et c'est de là que va naître la culture ballroom, parce que l'idée, c'est de se retrouver dans donc les ballrooms, des salles en fait de balles classiques, où on va danser la valse, etc. Mais que les personnes vont louer et vont organiser des concours qui vont au-delà du concours de beauté. Et donc là, on n'a pas seulement justement le côté reine de beauté, mais on a la performance totale, le chant, la danse, etc. Et c'est comme ça que naît la scène ballroom. Mais comme on est à New York dans les années 60-70, effectivement, c'est très très dur pour les jeunes queer latinos et noirs. Beaucoup, effectivement, sont virés de chez leurs parents, ouais, se retrouvent isolés. Et donc, en fait, ces houses, elles ont effectivement une double fonction. C'est l'équipe pour le concours, mais très souvent, ça va être vraiment des endroits où les personnes vont vivre ensemble, généralement, effectivement, avec une figure féminine, donc des femmes trans, des drag queens, etc., qui vont accueillir ces personnes. Là. Et donc, Vinnie le dit tout le temps hein, dans les balls, sans les drag queens, sans les femmes trans, il n'y aurait pas de scène ballroom. Et je pense que voilà, c'est important de le rappeler aussi, surtout quand la culture devient de plus en plus accessible au grand public, de rappeler d'où ça vient. Et donc, ça se développe. Et puis, cette solidarité-là, elle est extrêmement importante parce qu'arrive la crise du sida dans les années 80. Donc, c'est aussi vraiment toute une communauté qui se soutient et qui a cet espace d'expression, de liberté, de moments de rêve et donc des bulles de respiration dans un monde extrêmement difficile. Et puis la culture ballroom prospère aux États-Unis, sort de New York, etc., continue à se développer, et elle arrive en France autour justement des années 2010-2012.
C'est bien ça.
Vinnie Revlon.
Amandine a bien résumé la différence entre la France et les États-Unis. Voilà, nous on est arrivés après, la scène est apparue dans les années 2010-2011, et en France il y a quand même beaucoup d'aide. Mais la réalité, c'est que en étant queer, en étant racisé, on a toujours ces mêmes problématiques qui font que nos parents ne sont peut-être pas d'accord avec nos choix de vie, nos orientations sexuelles, et donc du coup, pour certains parents, il n'est pas concevable d'avoir des enfants comme ça sous leur toit, et donc. Des fois, ils sont exclus, ils sont chassés. Certains, encore aujourd'hui, se donnent encore la mort. Avoir une house, c'est je vais le dire en anglais, ensuite je vais traduire. It's a safe space. C'est vraiment un endroit protecteur. C'est un endroit... Voilà, moi, mon rôle en tant que père, parce que je suis père de la maison Revlon à l'international, mon rôle à moi, c'est bien évidemment de te former dans ta catégorie pour que tu excelles dans les concours, les bowls, pour vraiment me rapporter des trophées. Mais mon rôle, il est beaucoup plus profond que ça. Je suis là pour t'aiguiller, te conseiller et être aussi l'épaule à laquelle on peut se, pour pleurer parce qu'il y a beaucoup de malheurs, malheureusement, mais grâce à nos house, grâce à nos familles de choix, on se relève et on est très forts ensemble en fait.
Alors, Vini Revlon, on vous a quitté il y a quelques minutes. Vous découvrez le voguing sur MTV. Vous trouvez ça épouvantable. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Comment est-ce qu'on devient père, father de la House of Revlon? Ça se fait pas en un claquement de doigts. Vous avez commencé, vous avez appris, on vous a transmis la danse. Comment est-ce qu'on veut devenir vogueur? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous avez fait, vous?
Moi, j'ai regardé, en effet, cette émission sur MTV. Ensuite, j'ai été très curieux. Je me suis dit, il doit avoir quelque chose d'autre. Donc, j'ai regardé sur YouTube et là, j'ai découvert tout cet univers. Et je comprenais pas qui était ce peuple qui était autour des participants. Je me suis dit, c'est un public? Est-ce que c'est les gens de la scène? J'ai pas compris. Bref, pour faire une version un peu écourtée, entre danseurs à Paris, on s'entraînait à Gare de Lyon. Parce qu'on n'avait pas encore les moyens de se payer des salles de danse. On est à la gare, on est en train de reproduire les mouvements qu'on voyait sur MTV. Puis, un an après, Frédéric Nosiciel ramène des Américains, des vogueurs de Baltimore, qui font partie de la House of Revlon. Marquise, Corey, Edel, qui sont icônes et légendes dans la scène. Puis on se rencontre et puis ils me disent « tu vas être Revlon ». Et j'aurais dit, en fait, il y a un bowl à la fin de la semaine, on va voir ce que je vaux. Et puis, voilà, je suis arrivé en finale. Et j'ai dit, alors, est-ce que je suis Revlon? Et ils m'ont dit, of course, welcome to the house, bienvenue à la maison.
Do you want me to say who I am?
Tu veux que je te raconte qui je suis, tout ça?
I am Pepper La Beija,
je suis Pepper La Beija, la légendaire mère de la maison La Beija. Je ne suis pas la fondatrice. C'était Crystal La Beija. Je dirige la maison maintenant avec un gant de velours. C'est important pour moi d'être la mother, car il y a tant de gamins dont je dois m'occuper, même s'ils ne m'écoutent pas et s'ils sapent mon autorité. Je continue malgré tout à penser que je dirige bien la maison. Et ils m'aiment bien. Je suis une des plus populaires. Et ça fait 2 décennies que ça dure en continu. C'est moi qui ai reçu le plus de trophées que n'importe qui d'autre parmi nous.
Voilà un extrait de Paris Burning de Jenny Livingston, Céline, qui est le documentaire à l'origine.
Disons que c'est un film qui est sorti américain. En 1991, en tout cas au cinéma, qui a commencé à être tourné aux alentours des années 1987. Alors, c'est un film, il faut quand même en dire quelque chose, qui est un témoignage précieux, parce qu'en effet, on entend la voix de personnes qui, de toute façon, n'existent plus, qui datent de ces années-là, mais qui livrent aussi une vision partielle. Il a été aussi très critiqué, ce film, notamment parce qu'il s'est focalisé sur les vogueuses qui étaient les plus déshéritées, donc il a eu une tendance à montrer quand même plutôt des artistes qui avaient tendance à aller du côté de la prostitution, des addictions, de la pauvreté, alors que la scène ball est beaucoup plus large que celle-ci. Une des autres critiques aussi qu'on a pu faire sur ce film, c'est que les vogueurs et les vogueuses qui ont été filmés n'ont pas récupéré grand-chose de ce film, contrairement à la réalisatrice qui l'a réalisé. Mais ça nous permet quand même d'avoir des images de cette scène dans la toute fin des années 80, et notamment Pepper l'abeille Jacques, qu'on voit arriver avec une tenue flamboyante, dorée, extraordinaire, avec des énormes manches qui sont comme des grands ballons qu'elle retire petit à petit, et la foule autour d'elle qui hurle de joie, de plaisir, et elle qui est absolument sublime.
Oui, moi j'ai découvert la scène ballroom avec ce film. Donc, enfin, c'est vraiment un grand classique. C'est un grand classique du documentaire. Et puis, effectivement, c'est un document hyper important, ne serait-ce qu'en termes d'archives queer, puisque beaucoup des personnes qui apparaissent dans Paris is Burning sont décédées, justement en lien avec la crise du SIDA. Donc, c'est quand même important de les voir. Mais c'est vrai que l'enjeu éthique, il se pose beaucoup en documentaire. C'est comme dans la recherche, etc. Où il peut y avoir souvent soit un regard surplombant, soit une tendance à justement à faire un peu du trauma porn, c'est-à-dire que à la base, la scène ballroom, c'est d'abord un lieu d'empuissancement, on va le dire en français. Hein. je reviens du Québec. Donc, un lieu où on vient...
Empowerment.
C'est ça.
Exactement.
Empouvoirment.
Un empouvoirment, d'empuissancement, où on vient justement déposer, voilà, dans la série ballroom, Vinny dit, voilà, le deep, qui est un des mouvements dans le voguing, c'est un moment où on vient déposer tous ces traumas sur le parquet, sur le floor. Et donc, je trouve que, voilà, parfois, il peut y avoir aussi une tendance, quand on a un regard extérieur, à juste venir chercher ce côté traumatique, triste, voilà, de personnes qui ont effectivement, qui font face à des oppressions croisées, à des difficultés qui sont évidentes. Mais en fait, tout ce que représente la scène ballroom, c'est aussi la résilience, c'est la capacité à faire face, à créer avec très peu de moyens. Moi, j'ai ce que je préfère dans la scène ballroom, et peut-être encore plus dans la kiki scene, parce qu'en fait, il y a la major scene, donc un peu, on va dire, comme des adultes, puis la kiki scene ou la L1, la D1, L1, c'est la Ligue 1 en foot, et puis il y aurait de la D2 ensuite, qui serait la kikissine. Et en fait, je trouve ça tellement fascinant de voir des jeunes queer qui n'ont pas d'argent et qui vont trouver des moyens de se faire des tenues incroyables, qui vont faire des mises en scène, etc., pour le plaisir de l'art. C'est très court, le passage sur le floor. Ça dure moins d'une minute. Donc, il y a des personnes qui s'entraînent pendant des semaines, qui vont se présenter au public, qui vont se présenter au jury, et puis en 30 secondes, si ça se trouve, c'est terminé. Je veux dire, où est-ce qu'on trouve un geste artistique aussi beau, aussi pur aujourd'hui? Il n'y en a pas. Donc, comment est-ce qu'on regarde ces communautés-là si on n'en fait pas partie? Effectivement, qu'est-ce qu'on donne en retour? Pour nous, c'était très important, dès le départ du projet, avec Nasser Sari, donc Elina Gakugumba, de se dire, on ne va pas avoir une approche où Vinny serait comme, par exemple, un fixeur. Hein, comme il peut y avoir dans le journalisme, où on prend une personne qui connaît bien le terrain, et puis finalement, on se retrouve dans une posture d'exploitation. Vinny est directeur artistique sur Ballroom, parce qu'en fait, ça représente aussi l'importance de son apport et la possibilité aussi de continuer à travailler, par exemple, dans l'industrie audiovisuelle, si tel est son désir. Et donc ça, pour moi, c'est important, et ça vient aussi de toutes les critiques qui ont été faites, à juste titre d'ailleurs, à Paris is Burning et à la démarche de Jenny Livingston. Ouais. Is it all over my face? Got me love dancing. Is it all over my face? I'm in love dancing. Is it all over my face? You got me love dancing. Is it all over my face? I'm in love dancing. And swinging out the same. Since when I was 7. Is it all over my face? You got me love dancing. Is it all over my face?
Qu'est-ce qu'on écoute, là, Amandine?
Alors,
je vous vois en...
Oui, parce que je l'ai beaucoup entendu dans leur répétition, mais je sais pas qui est l'artiste. Voilà. Tu sais, toi? Ah non, voilà, on n'est pas vraiment en blind.
On étudie ce son-là pour la catégorie face.
Ah.
Céline, alors, le voguing.
Alors, mais c'est surtout qu'on entend depuis tout à l'heure un certain nombre de termes. Peut-être qu'il faudrait essayer de bien définir tout ça. On entend du trophée, catégorie, compétition. Donc, est-ce que Vinny Revlon, vous pourriez nous... Et puis des thèmes aussi. Comment ça se passe? Vous organisez une ballroom. Qu'est-ce que vous faites?
Alors,
choisissez le thème en premier, peut-être, ou...
Ballroom. Ballroom, c'est l'univers. Le ball, c'est l'espace de compétition. C'est là où on se célèbre, c'est là où il y a vraiment toutes les catégories. Donc, dans un ball, il y a le public, les participants, donc la communauté, un DJ, le jury, des trophées, Il y a un thème aussi. Et bien évidemment, le maître de cérémonie, généralement c'est moi ici. Il y a un thème. Par exemple, chaque année, je fais le Halloween Ball. Et donc, sur plusieurs catégories, chaque personne vont pas s'inscrire. Je fais un décompte en fait. Par exemple, je dis Face, you are now. Donc, la catégorie Face, c'est maintenant, c'est à toi. Je fais un décompte. Donc, je dis 10, 9, 8, 7, 6, 5. Et ils ont jusqu'à 0 pour se présenter. Donc, il n'y a pas d'inscription. Non. C'est tu vas et tu performes. Ensuite, une fois que tu as eu tes 10, ça veut dire tu passes tes présélections ou pas. Donc, si tu n'as pas eu tes présélections, tu es chop. Chop, ça veut dire éliminé. Tu passes tes présélections tranquille. Ensuite, c'est le moment des battles. Et les battles, dans ce monde, dans la ballroom scene, dans les balls, tous les battles se passent à deux et en même temps. Des fois à trois, quand c'est three blind mice, mais alors, généralement
à deux, ça veut dire que les gens s'opposent. C'est comme, comme un tournoi.
C'est ça, voilà. Ouais. Et mais c'est en même temps. Et en c'est bien impressionnant. C'est voilà, il faut bien le préciser, c'est en même temps. C'est pas l'un après l'autre. Mmh. C'est en même temps devant un jury d'experts. Et donc, à la fin, le trophée.
Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de trophées. Moi, je me dis, on a quand même une chance de pouvoir gagner un trophée parce qu'il y a beaucoup de catégories.
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de catégories. Dans un bowl, comme par exemple celui d'Halloween qu'on organise à la Gaîté Lyrique chaque année, il peut avoir peut-être 36 catégories.
Oui, avec des trophées qui peuvent faire 3 mètres de haut.
Voilà, ça c'est quand il y a des catégories un peu spéciales, par exemple quand on a fait les JO, mais voilà, c'est un petit détail.
Fleur Hopkins.
Oui, moi, j'ai regardé du coup la série en plusieurs épisodes. Et moi, ce qui m'a fascinée, c'est les différentes catégories. Donc, je me suis noté un peu la liste. Wellness, drag, sexe, sirène et body. Okay. Et j'aimerais bien peut-être qu'on revienne sur celle de wellness qui, moi, m'a beaucoup frappée parce que je pense qu'elle résume très bien cette formule que vous avez à un moment, ça célèbre la vie. Mm-hmm. Parce que justement, c'est le moment où on peut être parfaitement soi tout en jouant avec les codes et en exprimant qui on est vraiment à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous le dire avec vos propres mots, ce que c'est cette fameuse catégorie Realness, la vérité.
Realness. Je vais commencer et puis après tu rebondis, ok? Realness, c'est une catégorie de survie à la base. En fait, quand tu fais partie de la communauté LGBT, que tu sois gay ou que tu sois une personne de transidentité, tu dois passer inaperçu malheureusement parce qu'en face, on a des gens qui sont homophobes, on a des gens qui sont transphobes. Et en fait, du coup, ta sécurité... En fait, t'es pas safe quand tu marches dans les rues. Donc, du coup, tu dois être real. Real, ça veut dire se fondre dans la société hétéronormée. Et donc, c'est ça, être real. Ensuite, dans la communauté, on célèbre toute forme de realness. On célèbre toute forme d'identité. Donc, tu peux être un gay très flamboyant, très efféminé, comme tu peux être un gay très masculin. Et ça aussi, c'est célébré. Donc, c'est une catégorie qui est très importante. Parce que c'est la réalité, littéralement, encore aujourd'hui, c'est pas safe d'être dans les rues et en étant queer. Qu'est-ce que tu peux ajouter, Amandine ?
Amandine. Écoute, moi, j'ajouterais que ça m'a peut-être, moi, très surpris quand j'ai assisté aux premiers entraînements, parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font ? Parce qu'en fait, donc, aussi pour qu'on se figure la scène ballroom, les gens avancent sur comme un podium, voilà, exactement comme si c'était la semaine de la mode, là. je dis tout en français. et donc,
Fashion Week in English.
Exactement. Et donc, du coup, quand il y a les battles, si c'est realness pour les garçons gays avec une apparence masculine, généralement en plus la musique de fond c'est du gros hip-hop bien énervé et les gars arrivent, avancent comme ça et puis il y a toute une culture aussi de se chambrer. On appelle ça dans le monde queer le shade, c'est-à-dire que l'idée aussi c'est de pointer l'endroit où l'autre n'est pas real. Donc est-ce qu'il a une boucle d'oreille, est-ce que dans sa démarche, est-ce que dans sa façon de se tenir, etc. Et donc, c'est vrai que si on ne comprend pas qu'il s'agit de célébrer la capacité à survivre dans la société hétéronormée, on peut même se dire éventuellement, à la première vision, « Ah, mais ça renforce les codes ou les stéréotypes. » Et donc, du coup, je trouve qu'il y a quelque chose, voilà, de très précieux dans la scène ballroom, qui est de célébrer aussi l'adaptabilité. Si on est encore là, si on peut faire nos projets, organiser des balls, etc., c'est que quand il s'agit de se fondre, on est capable de le faire. Et donc, je trouve trouve que c'est une belle catégorie à la fin et qui mérite d'être comprise pour bah voilà, pour pouvoir être célébrée et appréciée. Et c'est d'autant plus chouette pour ceux qui dansent aussi, puisqu'il y a une autre catégorie qui s'appelle Realness with a Twist. Et donc, ce sont ces garçons très masculins dans leur présentation qui, quand ils se mettent à danser, utilisent les codes du voguing et du vogue femme et donc rentrent dans quelque chose de très très différent au niveau de leur expression corporelle, leur expression du visage. Et voilà, c'est très beau, justement, ce twist, cette capacité de montrer comment est-ce qu'on peut habiter tous les espaces. Oh, yeah. The entrance.
Alors là, je crois que c'était un ball qui était consacré justement à Halloween. Une des premières images qu'on voit, c'est une jeune personne qui sort d'une cage avec une main ensanglantée dans la bouche. Dans mon souvenir, il y a des clowns mais qui font extrêmement peur, des créatures avec des squelettes dans le dos. Et on entend aussi là dans nos oreilles le rôle essentiel aussi du maître de cérémonie qui harangue et qui commente en rythme sur la musique tout ce qu'il voit et qui annonce les catégories. C'est vraiment une alchimie énorme, avec aussi pour toute personne qui assiste à un ballroom, cette puissance du groupe, des gens qui sont tout autour du podium et qui crient, qui donnent des conseils, qui hurlent, et on est pris dans un feu d'énergie, je dirais.
Vinnie Revlon.
Tout à fait. Enfin, le MC, c'est les poumons. Le DJ, c'est le cœur. Sans ces deux personnes, il n'y a pas de bol, clairement. Ensuite, le public joue un rôle très, 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 très majeur. En fait, ils ne sont pas juste spectateurs, ce n'est pas une pièce de théâtre. Non, tout le monde est acteur et tout le monde doit vivre, car on se célèbre tous et toutes. Et donc, du coup, quand on voit un performeur, la moindre des choses, c'est de crier, de clapper, de faire « Ah !» Parce que vous allez souvent entendre ça. Ça, c'est un signe d'accompagnement. Cette main qui pointe vers ce corps qui est au sol, c'est un signe qui montre « Voilà, j'accompagne, je suis avec toi, je t'applaudis. » Et donc, tout ça fait partie d'un ball, en fait, de la ballroom scene.
Oui, c'est une célébration. Donc, il n'y a pas cette espèce de rupture conventionnelle entre la scène et la salle. Il y a une sorte de... Je ne sais pas, comme un défilé. Parce que la dimension parodique est très importante. Il y a le défilé de mode classique, les mannequins défilent, il y a les gens avec leurs petits numéros sur leur chaise dorée, qui regardent et puis qui notent les modèles qui les intéressent. Bon, ça, c'est le modèle traditionnel. Je dirais des house, des grandes maisons de couture et tout. Vous renvoyez ce modèle de base sous une forme totalement, je dirais, entre guillemets, transfigurée, complètement festif et totalement déhiérarchisé, presque.
Ah non, mais totalement. Et moi, je suis host généralement, et du coup, je dis au jury, enfin au public, pardon, il faut absolument faire du bruit. Un public mort, ça n'a pas de sens dans un bowl. Et des fois, je suis aussi public. Et donc, je fais partie aussi du public des fois, et j'ai tellement cette énergie en moi de crier que quand je vais dans un autre événement, comme à l'opéra, bah, en fait, j'arrive pas à rester silencieux.
Vous criez à l'opéra?
Oui.
On a un Traviata, brusquement.
Oui, parce que, en fait, mes émotions sont là et j'ai besoin de l'exprimer. Voilà. Mauvais genre, Angelier, ow!
Céline. Non,
je m'en remets à peine.
Ah bah moi je suis extrêmement émue.
Alors j'aurais bien aimé que vous nous donniez quelques petites explications sur ces fameuses catégories. Alors, on a parlé de la catégorie realness. Il y en a une que j'aime beaucoup aussi qui est sexy siren. Où là, comment est-ce qu'on pourrait décrire les choses? Il s'agit d'être le plus sexy, érotique possible pour le jury qui t'a monté sur la table du jury, qui t'a touché le jury.
Le but, c'est en effet de plaire au jury. Parce que oui, on peut faire crier la foule, le public, mais le plus important dans un bowl, c'est de séduire le jury. Et donc, cette catégorie sex siren qui a été inventée par Jack Mizrahi Gorgeous Gucci, qui est des États-Unis, c'est une catégorie qui, à la base, met en lumière aussi les travailleurs du sexe. Parce qu'ils ont beaucoup de préjugés et en fait, eux aussi, ils ont besoin d'un espace où on peut les célébrer. Et donc, c'est les travailleurs du sexe, les strippers, les strippeuses. Voilà, c'est cet espace-là qui est pour ces personnes-là à la base. Puis au final, cette catégorie s'est tendue un peu partout et beaucoup de gens en fait se disent, en fait, moi aussi, je suis sexy, moi aussi en fait, je peux plaire et pourquoi pas en fait essayer de charmer le jury. Et donc oui, il faut faire jouer son sex appeal, son regard, son corps, mettre de l'huile, voilà, on peut briller quoi.
Et on peut quand même le rappeler vraiment avec toutes sortes de corps.
Toutes sortes de corps.
Il n'y a pas un modèle, on n'est pas comme sur... Parce qu'il y a la comparaison évidemment avec le podium et la mode, mais là on n'est pas face à des créatures filiformes qui font 42 kilos. Enfin, il y a tout, mais...
Il y a de tout en fait, et c'est ça en fait la beauté de la scène ballroom, c'est que tous les corps sont célébrés et c'est pas juste un mot qu'on dit comme ça, c'est réel. Et donc oui, petit, grand, mec, gros, peu importe, t'es sexy, bring it, t'es sexy, comment on dit en français, approche. Désolé, hein. Si je bascule entre le français et l'anglais, ne me tapez pas avec un bâton, c'est normal.
Amandine Gay.
Oui, en fait, c'est vraiment cet enjeu de valoriser dans cet espace-là tout ce qui peut être critiqué, mal vu à l'extérieur. Je pense que cette idée de se dire encore une fois, c'est quoi les débouchés dans le monde du travail pour les personnes queer, pour les personnes trans, c'est pas toujours facile d'arriver à trouver un job en journée. Et donc effectivement, il y a beaucoup de personnes qui travaillent la nuit. Il y a une partie des personnes queer qui travaillent effectivement en tant que travailleuses du sexe. Et donc l'idée, c'est de se dire une activité qui va être stigmatisée à l'extérieur, en fait, elle requiert énormément de compétences. Moi, je voudrais bien voir plein de gens faire du pole, par exemple. C'est vraiment pas donné à tout le monde. Et donc, l'idée, c'est vraiment ça, en fait. C'est que dans la ballroom, on va pouvoir venir valoriser tout ce qu'on sait faire, quelle que soit la chose qu'on sait faire. Dans les communautés noires, par exemple, il y a plein de gens qui grandissent à l'église, qui ont l'habitude de chanter depuis leur plus jeune âge, etc. Et donc, du coup, ça aussi, on peut le ramener dans la ballroom. Et on peut même le ramener, il y a des catégories, des sous-catégories qui sont, par exemple, church boy realness. Donc, est-ce qu'on peut vraiment passer pour un enfant de cœur. Et en fait, c'est absolument génial de voir les personnes passer, etc. C'est en fait tout ce qui compose votre culture, tout ce qui compose votre identité, votre histoire, vous pouvez le mettre en jeu dans la scène ballroom. Vous pouvez, le valoriser, vous amuser avec. Et donc, du coup, c'est vraiment aussi un espace, encore une fois, on va travailler même ces traumas différemment. On peut tout faire, en fait. C'est un espace de liberté absolue et effectivement pour tous les corps. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est encore assez rare aujourd'hui, de se dire c'est vraiment venez comme vous êtes, et ce qui compte par contre, c'est d'avoir confiance en soi, parce que j'insiste, monter sur ce podium face à un jury de 7 à 11 personnes, en sachant qu'en l'espace de 4 secondes, on peut vous chopper, et en fait Vinny ne l'a pas très bien expliqué, mais chop, ça vient vraiment de genre en anglais, ça veut dire couper, ouais. Donc ils vous font le signe qui vous coupe la tête en fait, il faut partir, donc ça c'est aussi un endroit où vous venez vous renforcer. Une des choses qui est très impressionnante dans la scène ballroom, c'est que c'est aussi ça que vous faites. Hein, les aînés des house, les parents, etc. C'est aussi là pour donner des clés aux plus jeunes queers de comment est-ce qu'ils vont se débrouiller et se défendre dans la vie. Et la scène ballroom, elle leur apprend ça aussi. C'est pas pour il faut en avoir pour faire de la ballroom.
Céline.
Alors, on l'a dit au tout début de l'émission, hein, cette dimension de famille, de house, est extrêmement importante. Et on va écouter justement un extrait du documentaire où on va entendre une conversation entre deux personnes de la House of Revlon.
Ah, oh, girl.
No shake.
Ma chérie.
Mais il y a aussi
comment
mon
ça, les mecs.
Les mecs. Girl. En gros, je commence à me rendre compte de comment je vais être approchée, l'hypersexualisation, si...
Tu te prends trop la tête. Ma belle, moi, je te parle en vrai français. Sors de ça et vraiment concentre-toi sur ta transition. Concentre-toi sur changement de prénom, changement d'état civil. Laisse les hormones faire leur travail. Bois de l'eau. Fume pas, bois pas, prends pas de drogue. Et vraiment un conseil que je peux te donner, vraiment, ne te laisse pas trop habiter la tête par les réseaux sociaux, par les combats des autres. Chacun ses combats. Toi, ça se trouve, ta transition, elle va très bien se passer et tu vas pas souffrir et tu vas pas truquer. Moi, Dieu merci, j'ai pas souffert, genre, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et surtout, tu vois, le fait d'être une personne trans, il faut pas que ce soit... faut pas que ça te définisse. Tu l'es, tu l'es. Mmh. Moi, quand je parle aux gens, quand je me présente à des gens, je leur dis jamais. T'as pas besoin de savoir ce que j'avais avant dans la culotte, ce que j'étais avant, gros, t'as pas besoin, ça regarde personne à part toi, ça.
Donc voilà, là, on a une conversation entre Satine et Gisèle. Qui, alors là, ce serait une conversation entre, on pourrait dire, un kid et une mother. On voit justement la famille de substitution dont on parlait au tout début de l'émission. Le fait de faire famille et de conseiller, de cette épaule aussi qu'on peut prêter à des jeunes qui ont des parcours pas toujours faciles.
C'est très important parce que ces conversations, justement, très privées, hein, ces jeunes ne les ont pas avec leurs parents biologiques. Et donc, du coup, nous, on sert à ça. Et donc, nous, en tant que parents, on doit être aussi être armés et avoir des outils pour pouvoir répondre à ces questions-là. Et on n'a pas la science infuse. Et donc, du coup, des fois, on peut pas répondre à tout. Par exemple, on sait que beaucoup de gens, et que ce soit dans la communauté queer ou pas, doivent, je conseillerais à tout le monde d'aller parler à un psy, d'aller consulter. Et donc, du coup, Amandine nous a donné une liste de psy qu'on a recommandé à toute la house. Et pour moi, c'est important. Donc, on parle, bien évidemment, la ballroom, on t'apprend à exceller dans ta catégorie. Mais pour moi, comme je dis, le voguing, c'est une disquette pour avoir de grandes discussions. On parle de tout. Moi, je parle d'école, je parle de travail. Je suis Capricorne, ok? Donc, Capricorne, c'est on bosse.
Je l'attendais.
Bah oui, non, alors mais ça
on
arrive.
On a fait 30 minutes sans le point Capricorne. c'est très fort.
Je vise l'excellence, mais l'excellence, c'est quoi l'excellence? L'excellence, c'est être assidu. L'excellence, c'est d'être respectueux. L'excellence, c'est de se réveiller, de se dire que je vais être la meilleure version de moi-même. Et donc, du coup, j'essaie d'inculquer ça à mes kids. Et on parle de santé. On parle de santé mentale. On parle de travail. On parle d'objectifs. Et donc, en effet, quand tu es dans ma house, tu dois avoir ce genre de conversation avec moi ou les autres parents. Et des fois, c'est houleux parce que, bah, comme tout kids, certains ne veulent pas travailler. Voilà, c'est des flemmards. Et pas chez moi, en fait. Voilà.
Mais d'ailleurs, vous avez un t-shirt ou un pull où il y a marqué « Psychanalyse is sexy » ou quelque chose comme ça, non?
C'est quoi? Therapy.
C'est voilà, therapy is sexy. Le message est bien envoyé. Comment vous avez fait, Amandine Gay, pour réussir à créer justement ces moments de dialogue qui sont très intimes entre les différents membres de la house?
Moi, je crois beaucoup à la nécessité de commencer à travailler sans caméra. Donc, en fait, dès que le projet a démarré, Elina et moi avons passé beaucoup de temps avec les membres de la house. On allait à leurs entraînements tous les mercredis, on allait dans les bowls pour qu'on apprenne à se connaître, en fait, tout simplement. La première fois, on a été les voir aussi. On leur a expliqué vraiment quelle était notre démarche éthique. Donc moi, j'ai fait deux films avant ça. Ouvrir la voie, l'expérience des femmes noires francophones. Et puis, Une histoire à soi, un film sur l'expérience des personnes adoptées à l'international. Et comme je disais, la place de Vinnie dans cette série, ça fait aussi partie d'une réflexion éthique globale. De nous, on ne vient pas juste ponctionner une histoire. On n'est pas dans l'extractivisme. On est vraiment dans une idée de don contre don. Moi, par exemple, sur tous mes projets, je fais en sorte que les gens qui apparaissent dans mes projets viennent aussi chez moi, mangent à la maison, etc. Ça me semble semble très important d'être aussi une personne qui parle publiquement de ces questions-là. Ça veut dire que moi, je demande jamais aux gens de se mettre en danger d'une façon que moi, j'aurais pas déjà expérimentée. Et je trouve que toutes ces choses-là, ça permet aux personnes, effectivement, de vous faire confiance, d'apprendre à vous connaître, de pouvoir vous demander des comptes. Ce que je dis souvent, la raison pour laquelle moi, j'ouvre ma maison, c'est que si t'es pas contente, tu peux venir toquer à ma porte après et me dire c'est quoi cette série. Et en fait, l'idée d'essayer de remettre un peu d'équilibre quand on va filmer des gens, quand on va leur demander de nous raconter leurs histoires, c'est ce qui va donner ensuite cette qualité. Une fois qu'il y a la caméra, on s'est habitué les unes les autres, les personnes ont vu mon travail, et après, quand elles nous font confiance, elles sont venues aussi parce qu'elles ont quelque chose à dire. Moi, ce que je dis souvent, le documentaire, ça marche quand les participants et les participantes ont leur propre agenda. En fait, si la personne a des choses qu'elle a envie de dire à sa famille, au grand public, etc., et qu'elle se saisit de votre projet, alors là, en fait, elles vont donner des choses qui sont magnifiques.
T5, c'est aussi une parodie du T42, du 5 o'clock tea, mm-hmm. Vinnie Revlon.
5 o'clock tea.
Dans ce qu'on entend là.
You talk about the shadow here. désolé, je parle en anglais. Five o'clock, c'est l'après. Je sais pas comment on dit en français. Quand on voit un peu le.
C'est quand la barbe de trois jours.
voilà. Désolé.
À Marvin Gaye, il y a quelqu'un que j'ai trouvé très émouvant dans la série donc, que vous avez produit, réalisé, qui s'appelle Edison, je crois.
Edison, oui.
Edison, pardon. Qui a du mal à performer, donc qui est dans la difficulté un petit peu d'incarner ce qu'il veut faire, d'être sur scène et tout. Il y a aussi, parce que là, on a parlé des flamboiements, mais il y a aussi ceux qui sont dans la souffrance à...
Ou dans flamboyer. Les balbutiements.
Dans les balbutiements, absolument.
Edison, c'est vraiment... c'est notre chouchou. Et je pense que c'est le chouchou de beaucoup de gens qui regardent la série. En fait, c'est assez drôle parce que quand on a commencé à travailler sur le projet avec Elina, donc, c'est une scénariste de fiction à la base. Et donc, Nasser l'avait recrutée en premier. Elina et moi, on bossait sur un autre projet. Et il a recruté Elina parce qu'il voulait vraiment une écriture pour cette série qui emprunte au code de la fiction. Et puis ensuite, comme on bossait ensemble avec Elina, elle a dit ça intéressera Amandine. Et ça m'intéressait. Et c'est là qu'on s'est mis à travailler sur la série. Et en fait, comme on vient toutes les deux de deux univers très différents, on n'a pas forcément les mêmes inclinations en termes de personnages principaux. Et donc, quand on a commencé, on n'était presque jamais d'accord. Le seul sur lequel on est tombé d'accord immédiatement, c'était Edilson, parce que vraiment, déjà aussi en termes de narration, c'est génial d'avoir un débutant. C'est-à-dire qu'on savait très bien qu'on allait devoir amener le public dans un univers qu'ils ne connaissent pas. Donc, le principe de l'ingénu avec qui on découvre la scène, c'est génial. Mmh. Et lui, en plus, il avait vraiment ce côté, il avait ses lunettes, il était tellement touchant parce qu'il essayait de danser, puis les lunettes tombaient. Et il glisse avec les chaussures, etc. Et donc, il y avait ce côté vraiment d'une personne à qui on peut facilement s'identifier. Et puis effectivement, qu'il y avait un récit de vie. On a fait très attention à pas avoir des personnes trop jeunes dans le projet. Et aussi, ça a été encore une fois des discussions avec Vinny. Ça a été ce document qu'on a créé avec Elina de renvoyer les personnes vers des psy safe pour les personnes queer, racisées, etc. D'avoir cette question de jusqu'où on peut aller sur la réalité, justement, des difficultés que peuvent vivre des personnes queer, mais encore une fois, sans les mettre en danger et sans exploiter leur trauma. Et donc, en fait, avec Edilson, c'est une personne avec qui on a pu construire cet équilibre-là, qui était de aller avec lui. Et c'est pour ça que je dis, il faut que les gens se saisissent de votre projet. En fait, Edilson, il avait un parcours de résilience en lien avec des violences dans le couple. Mais en fait, c'était l'histoire que lui, il avait envie de raconter. Il avait envie de raconter comment il s'en était sorti. Et donc, à partir de là, c'est pas de l'exploitation. C'est vraiment aussi lui donner une plateforme pour qu'on voit comment il avance dans la vie.
Céline, pour retrouver nos invités.
Peut-être la prochaine date du prochain ball.
Le prochain gros ball à la Gaîté Lyrique, c'est le 7 novembre, le XL Black Kiki Ball.
On sera là. Thank you. Et maintenant, l'almanach de l'étrange.
L'almanach de l'étrange est consacré à Jean-Marie Massou, qui a créé une œuvre protéiforme au cœur de la forêt de Marmignac, dans le Lot. À partir des années 80, pendant plus de 40 ans, il a creusé un monde souterrain composé de puits, de cavités et de galeries. Il a déplacé d'énormes blocs de pierre qu'il a extraits de la terre pour les mettre en pyramide ou en ligne. Il a gravé des motifs sur des pierres en s'inspirant de la préhistoire ou de l'Antiquité. Son objectif, préparer une base pour les extraterrestres. Car Jean-Marie Massou était fortement préoccupé par l'imminence de la fin du monde et la disparition des espèces. Il s'était fait messager à sa manière, lanceur d'alerte. Le Sidéral était le nom qu'il avait donné au grand vaisseau, à la fois arche et refuge, qui emmènerait les survivants loin de la terre devenue inhospitalière. Qui était Jean-Marie Massou? Il est né en 1950 d'une mère jardinière employée dans des châteaux et de père inconnu. Il ne fréquente l'école que quelques jours et reste analphabète. Au début des années 70, à la suite de plusieurs internements en psychiatrie, sa mère décide de repartir vivre dans son village natal du Lot pour le soustraire à la violence de la psychiatrie institutionnelle. Dès lors, il peut développer son univers et ses créations dans la solitude de la forêt. Lorsque sa mère meurt en 1997, il continuera ses diverses pratiques jusqu'à sa propre mort en 2020 à l'âge de 70 ans. Il laisse derrière lui une œuvre considérable, inscrite dans le paysage de la forêt, dans ses sous-sols, mais aussi dans sa maison, où se trouvent ses dessins, ses collages, des objets en lien avec ses centres d'intérêt, comme par exemple une collection d'insectes qu'il avait placés dans des flacons cachetés à la cire et qui permettraient aux extraterrestres de faire renaître une faune disparue. Son œuvre mystérieuse et poétique résonne fort en ces temps de préoccupations écologiques. En ce moment, à Marseille, proposée par les éditions Le Dernier Cri de Paquito Balino, une rétrospective lui est consacrée à la friche La Belle de Mai dans le cadre de l'exposition collective MAD, modèle autophagie des ordures qui interroge les ambiguïtés réelles et virtuelles. Renaud Leplat Torti, le commissaire de l'exposition sur Massou, explique que dans l'art brut, la psychiatrie est souvent réduite aux symptômes du génie un peu fou. Il rappelle que derrière cette image romantique se cachent des existences difficiles et que les œuvres de Jean-Marie Massou ne se résument pas à un symptôme, elles portent une vision du monde qui nous concerne tous. Dans l'exposition, on peut découvrir des photos de son univers, des sculptures, des extraits de films sur lui, ses carnets de rêves et de dessins, les objets qu'il avait collectés, ainsi qu'une incroyable collection de cassettes audio aux jaquettes dessinées colorées qu'on peut écouter. Car Jean-Marie Massou se promenait avec un enregistreur, enregistrant tout à la manière d'un journal intime, ses rêves au matin, ses journées, ses conversations avec les visiteurs ou ses complaintes qu'il chantait dans la citerne derrière sa maison à l'acoustique parfaite. Cette exposition est à voir jusqu'au 29 mars à la friche La Belle de Mai à Marseille. Et par ailleurs, l'association des amis de Jean-Marie Massou, le Sidéral, propose de faire découvrir le site et l'œuvre de Jean-Marie Massou in situ. Et toutes les références sont à retrouver sur le site de l'Almanach de l'étrange.
Esther Teilhard, premier roman de Carole Boinet.
Boinet. Chers auditeurs de Mauvais Genre, c'est un premier roman que je vous présente ce soir, L'enthousiasme de Carole Boinet, tout juste paru chez Stock. Et ici, écoutez-moi bien, il a tout pour plaire à vous autres, vieux collectionneurs d'énigmes et de sentiments contradictoires. Le roman commence sur une falaise bretonne, il vante, une femme seule se promène, un chien fou arrive en courant. Prêt à l'attaquer, elle le rejette pour se protéger. Le chien tombe de la falaise, le maître ne dit rien. La femme rentre chez elle. C'est un début étrange, glaçant, à l'image de ces 300 pages brutales et arides, racontant la perte d'élan vital, de foi, de repères, d'enthousiasme, d'une jeune femme qui a trop baisé, trop bu, trop tapé, qui s'est perdue dans la ville monstre, Paris, dégueulasse, insatiable. À bout de souffle, la narratrice, sans nom et sans visage, se retire dans la vieille maison familiale, des murs austères, hantés par les fantômes et les sorcières du coin, pour essayer de retrouver ce petit quelque chose qui permet de se réveiller sans avoir envie d'hurler avec les chiens, cette innocence qu'elle a perdue. Soyons reconnaissants à Carole Boinet de mettre en scène une narratrice qui ne ment pas, qui révèle ses contradictions, ses zones d'ombre et d'échec, sa part impure et destructrice. Je trouve ce roman réussi car il est faussement froid, si tendre en réalité. Oui, il y a quelque chose de profondément généreux dans ce texte qui parle aussi bien de cette grand-mère à qui l'on doit beaucoup et qui n'a jamais joui, que de sa petite fille, éclaboussée par le plaisir, en colère, apathique. Dans l'enthousiasme, les chiens ne cessent d'aboyer, on abat un cochon, on oublie la date des morts, le son de son propre rire, on mange des nems trop gras dans des buffets industriels. La sexualité est triste, sans issue. Et pourtant, il y a par souffle saccadé le germe d'un espoir, une rencontre improbable entre un vieux soulard et une jeune femme anesthésiée. Et surtout le retour à la vie par la parole, la langue comme connaissance de soi. Brutalement, le souffle revient, les mots affluent, le langage s'étoffe, et la narratrice ne meurt pas. Oui, mauvais genre, je crois que c'est cette mort qui ne vient jamais, l'éternelle ténacité de cette narratrice amochée qui m'a profondément touchée. C'est un livre qui ondule, nuance, s'aventure au mauvais endroit. Vous ne l'oublierez pas. Lisez Carole Boinet, je le dis rarement, mais je le dis ce soir. Ce soir, c'est important.
Merci Esther. Fleur.
Impossible de choisir, j'ai deux recommandations, François, deux pépites qu'il faut absolument lire. Alors d'abord, vous dire que mon cœur est en fête. Shadows, la plateforme de streaming, ou plutôt devrais-je dire de screaming, nous fait un très beau cadeau en lançant sa collection Obscure auprès de Maison Pop. Et elle nous offre un très beau premier roman. Il s'agit de Strandling de James Brodgen, il s'agit d'une traduction. Le titre est déjà un phénomène en soi. Strandling, c'est quoi ? C'est un mot inventé. C'est à la fois le mélange entre l'échouement et la bête. Parce que qu'est-ce que nous raconte ce roman ? C'est une jeune femme, Megan, 19 ans, qui vient de se séparer assez récemment d'un certain Simon. Elle est accompagnée de Kelpie, sa fidèle chienne, et elle erre à travers le petit village qui est dévoré par la mer. Elle va être au centre d'une intrigue qui touche à la fois au folk horror et au small town horror. Donc je recommande vraiment cette histoire à ceux qui aiment Stephen King et ses histoires de personnages très fort en couleur et en mystère. Ceux qui ont aimé la série From, où on ne sait toujours pas, alors que les épisodes défilent, qu'est-ce que nous raconte cette histoire. Et vraiment, l'écriture est tout à fait saisissante, réaliste, et on est plongé dans une enquête très étrange autour de sorcières et de mystères qui sont liés à la mer. Et surtout, ce que j'ai trouvé formidable dans ce premier roman, c'est une actualisation du folk horror. On n'est pas au fin fond de la forêt, on est sur une île qui est violemment dévorée par la mer et en pleine ruine de ce que la pandémie de Covid-19 a pu altérer dans cette petite île touristique. Donc, lisez Strandling de James Brogden, ça nous montre vraiment que Shadows a plein de pépites sous le tapis qui vont bientôt nous être offertes. Et puis une autre recommandation qui a été là aussi un beau choc de lecture, il s'agit d'Ici tombent les filles, déjà quel beau titre. C'est Stéphane Gillieu qui en est l'autrice, c'est une psychologue clinicienne qui nous livre un très curieux roman de New Weird. C'est un mélange, je dirais, entre Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic et La bibliothèque de Mount Char de Scott Hawkins, donc déjà tout un programme. Et il s'agit cette fois d'un grand dérèglement qui ne dira jamais son nom, une sorte d'apocalypse qui a provoqué une migration d'individus, et on suit des personnages de jeunes filles, Met, Pila, Dag et le seul garçon de la famille, Finn, qui sont progressivement tués par leurs parents au sein d'un rituel dès que les jeunes filles ont leurs règles. Donc un récit vraiment horrifique, saisissant, plein de symboles et d'une écriture tellement, tellement délicate. Lisez Strandling, lisez Ici tombent les filles, ce sont de véritables pépites.
Voilà, puis lisez aussi l'essai que Fleur Hopkins Le Ferron publie chez ActuSF sur le body horror.
Génération body horror.
Génération
avec Morgane Cossarieux.
Morgane Cossarieux. Et puis aussi un essai sur la dark romance.
Guide amoureux, tout à fait, chez Guater.
On en reparlera, bien sûr, dans Mauvais Genre. Et puis, comme l'excellente, la très grande maison Christian Bourgois fête ses 60 ans cette année, dans la collection Satellite, il réédite Les Flagellants de Carlène Polite, le roman qui inspira Toni Morrison. Je l'offre à nos invités. C'est un des grands romans sur la conscience noire de Harlem des années 60. Merci Amandine Gay, Vinnie Revlon d'avoir été ce soir les invités de Mauvais Genre. Tout pour vous retrouver sur le site de France Culture. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleré, Anthony Thomasson, Guéret Corbin, Claire Poissignon, Céline Duchesne, Esther Teillard, Fleur Hopkins Le Ferron et François Angelier vous remercient d'avoir suivi Mauvais Genre. On se retrouve avec FMUR la semaine prochaine, exposition à Strasbourg.